grand bien vous fasse, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 10h. Bonjour à tous, soyez les bienvenus en direct ou en podcast. Et ce matin, coup de projecteur sur une star qui a de plus en plus de fans, le yoga, une pratique qui connaît un succès mondial, des studios de yoga et des ashrams qui ne désemplissent pas, des adeptes qui enchaînent les postures pour des raisons très diverses, une myriade d'écoles, parfois concurrentes, mais qui promettent toute l'harmonie corps-esprit à tous ceux qui s'y adonnent de 7 à 97 ans. Nous essaierons de comprendre ce matin le succès en Occident de cette discipline d'origine indienne, comment s'est-elle adaptée à nos modes de vie, comment expliquer la dérive éthique et commerciale de certaines écoles et de certains gourous superstars, comment le yoga s'est-il démocratisé sur Internet, bref, que raconte cette pratique sur notre société en quête de santé et de bien-être. Avec nous ce matin la journaliste Marie Coq, le médecin Lionel Coudron et l'anthropologue Abdou Gnaba. Et vous, pourquoi faites-vous du yoga? Comprenez-vous cet engouement? Quelles sont vos bonnes et mauvaises expériences? Contactez-nous au 01 45 24 7000 sur l'appli France Inter et sur la page Facebook de Grand Bien Vous Fasse. Bonjour Thibaut de Saint-Maurice.
Bonjour Ali.
Avez-vous déjà essayé la posture de la chandelle?
Mais non, justement.
Bon, peut-être qu'on va vous donner envie de pratiquer.
Je vais le faire ce matin dans le studio.
En tout cas, que vous inspire le yoga dans vos réflexions philosophiques?
Justement, les réflexions de quelqu'un qui n'a jamais pratiqué du yoga et qui donc essaye d'en comprendre la sagesse.
A tout à l'heure. Bienvenue dans Grand Bien Vous Fasse, la vie quotidienne, mode d'emploi.
France Inter. Grand Bien Vous Fasse. Ali Rebbi.
Bienvenue à nos invités. Bonjour Marie Coq.
Bonjour.
Vous êtes journaliste, vous enseignez le yoga et vous publiez un ouvrage absolument formidable à la découverte. Ça s'appelle Yoga, une histoire monde, sous-titré de Bikram aux Beatles, du LSD à la quête de soi, le récit d'une conquête. Bonjour docteur Lionel Coudron.
Oui, bonjour.
Vous êtes médecin, vous avez publié de nombreux ouvrages sur les bienfaits santé du yoga et vous êtes un spécialiste de yoga thérapie. Bonjour Abdou Gnaba.
Bonjour Ali.
Vous êtes anthropologue et vous dirigez le cabinet Sociolab. Marie Coq, expliquez ce qu'est le yoga à ceux qui en ont une idée vague.
Alors, ça va être compliqué de faire ça en trois minutes, mais en gros, le yoga, aujourd'hui en tout cas, on considère que le yoga, c'est une pratique physique qui allie donc les postures, la respiration, de la relaxation, un petit peu méditation, etc. Donc, c'est une espèce comme ça de pratique qui a les apparences d'une pratique sportive, mais qui est aussi une pratique spirituelle.
Lionel Coudron.
J'aurais exactement pris la même définition, en sachant que le yoga, à l'origine, c'est effectivement de la méditation. Et même avant encore, c'est une philosophie. Donc on va se rejoindre sur le plateau.
L'étymologie du mot yoga, c'est unir, réunir, relier. C'est ça, Lionel Coudron?
Oui, absolument. Ça signifie en fin de compte harmoniser, mettre en cohérence les différentes composantes de la personne, mais aussi la personne avec son environnement. C'est pour ça que je disais, il y a une dimension philosophique très importante. Et c'est peut-être ce qui en fait le succès, c'est-à-dire que c'est une pratique qui implique le corps, mais que beaucoup décrivent comme une pratique intelligente. C'est-à-dire qu'on ramène du cœur et de la pensée, de la conscience dans cette pratique. Et ça fait un peu la différence par rapport à d'autres méthodes.
Et ce mot sanskrit, Marie Coq, signifie bien d'autres choses que qu'unir, réunir, relier.
Oui, parce qu'en fait, il vient effectivement du sanskrit yug, qui est le joug. Donc c'est vraiment, donc effectivement, il y a une union, mais qui n'est pas une union sans contrainte et sans effort, parce que c'est vraiment l'attelage. Ça a pu aussi définir comment on attelait les animaux pour les mettre au pas, et c'était aussi, ça a servi aussi de, ça a pu définir parfois des façons d'organisation, notamment les constellations, par exemple. Le yoga, ça a aussi défini ça. Voilà. Donc il y a quand même une histoire de système d'organisation et de contraintes.
On pratique dans des studios de yoga, dans des ashrams. C'est quoi exactement un ashram?
Alors l'ashram, c'est l'équivalent un petit peu du monastère. Ce sont des lieux à la base qui étaient des lieux qui étaient destinés uniquement aux pèlerins, maintenant qui se sont ouverts avec la démocratisation du yoga et où on peut effectivement aller pratiquer là-bas.
Lionel Coudron, il existe une infinité d'écoles. Quel est le dénominateur commun?
Ce que l'on a dit tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est avant tout une pratique qui implique le corps, associée à la respiration, qui est extrêmement importante, c'est une des charnières de la pratique du yoga. Si on ne comprend pas la respiration, c'est difficile de pratiquer et de comprendre le yoga. Et associée avec une intention, une présence, et on va justement faire cet exercice consciemment, sans penser à autre chose, ou même désolé, sans écouter la radio. Donc on va être impliqué dans ce qu'on fait.
Marie Coque.
Oui, c'est exactement ça. C'est en fait effectivement la respiration, c'est aussi, je pense. Alors, peut-être que je réponds un petit peu en avance, mais je pense que c'est en grande partie aussi l'une des raisons de l'engouement du yoga aujourd'hui, parce qu'effectivement la pratique physique, une pratique physique raisonnable, raisonnée, intelligente, on pourrait peut-être la trouver ailleurs, mais effectivement cet apport de la respiration, c'est vraiment le yoga qui permet de l'apporter.
Alors selon l'étude Le Yoga en France, menée en avril 2019 par l'appli Olibi et l'Union Sport et Cycle, il y aurait en France 2 600 000 adeptes qui ont pratiqué au cours des 12 derniers mois, une pratique essentiellement féminine à 80%, avec un cœur de cible entre 25 et 34 ans, puis après 44 ans. Mais Marie Coque, pour vous, le nombre d'adeptes est assez peu fiable. Pourquoi ?
Oui, en fait, parce qu'effectivement, comme le yoga, même s'il y a des postures et c'est une sorte de discipline sportive, ce n'est pas considéré comme un sport, ni en France, ni ailleurs. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de fédération nationale qui comptabiliserait le nombre des licenciés. Donc le nombre des yogis aujourd'hui, que ce soit encore en France ou ailleurs, c'est toujours une espèce de mix entre des fédérations qui ne disent pas leur nom, et puis des sondages comme ça, effectivement, on va demander si dans l'année, est-ce que vous avez pratiqué une fois et ça va compter pour une personne.
En tout cas, une chose est sûre, le yoga est en expansion.
Oui, ça par contre, ça c'est certain.
Alors quand un élève franchit la porte d'un studio de yoga ou d'un ashram, on ne l'interroge pas sur ses motivations ?
Non, effectivement, et puis ça c'est Eva Rouge-Paul aussi qui est une des pionnières du yoga en France.
Elle a 90 ans, pionnière du yoga en Europe et en France, c'est une figure respectée et reconnue du milieu.
Ouais, et puis vraiment quand on la rencontre, elle est c'est une espèce de jeune fille avec une grâce folle. Enfin bon, donc c'est vraiment quelqu'un de très intéressant. Et elle me disait effectivement qu'elle demandait jamais à ses élèves quand ils venaient la voir parce que c'était leur jardin secret, etc. Ce qu'elle dit aussi, et ce que moi j'ai pu constater dans mon propre cas et aussi avec mes propres élèves, c'est qu'il y a souvent une raison cachée en fait pour le yoga. On sait pas très bien pourquoi on y va.
C'est quoi cette raison cachée ? Cette autre chose ?
Voilà.
Vous dites on y va pour autre chose.
Oui, on y va pour autre chose. Effectivement, en général, on y va. Et ça, on est aidé aussi par la médiatisation du yoga aujourd'hui. Mais on y va parce qu'on est trop stressé, parce qu'on a mal au dos, etc. Mais effectivement, si on se tourne vers le yoga plutôt que vers le pilates ou vers la natation, c'est qu'on attend cette autre chose. Et cette autre chose, c'est cette partie un peu cette partie spirituelle, consciente, qui n'est pas toujours tout à fait assumée, je trouve, dans les. Et c'est très bien comme ça, parce que c'est aussi une façon de d'y arriver.
Docteur Lionel Coudron.
Alors, en ce qui nous concerne, on avait mené une étude dans les années 85. Alors, c'était sur 400 personnes, c'était pas énorme. Néanmoins, on avait un réseau dans le cadre de l'Institut de Yoga Thérapie. Et on s'était rendu compte que pour 70%, la motivation avouée, la première, c'est des raisons de santé. C'est-à-dire, effectivement, j'ai mal au dos, je me sens stressé, je dors pas bien, j'ai des difficultés respiratoires. Après, il y avait effectivement des raisons évoquées, je dirais, spirituelles et des raisons simplement d'intérêt culturel. Donc, c'est quand même majoritairement des raisons de bien-être, de santé, d'équilibre. Et derrière la notion de spiritualité, en fait, c'est vrai que c'est pas annoncé comme tel, mais on sent très très bien ce besoin qui est justement une prise en compte générale, globale. Et je reviens sur le mot yoga, qui signifie pas seulement contrainte, mais qui signifie maîtriser. Et c'est cela que les personnes veulent, c'est qu'elles se sentent embarquées souvent par leurs émotions, leur anxiété, leur inquiétude, et qu'elles veulent remettre un petit peu d'ordre dans cette partie de nous-mêmes qu'on a du mal parfois à pouvoir diriger.
Oui, tout à fait. En fait, là, ça c'est effectivement aussi, je trouve que on dit beaucoup que le yoga c'est une discipline pour se relaxer, pour se détendre, etc. Mais c'est aussi une discipline. Effectivement, je pense que c'est un apport extrêmement important aussi du yoga d'avoir cette discipline qui demande de l'effort, de la ténacité, de l'engagement.
Quel est le yoga le plus pratiqué ? C'est le Hatha yoga. Hatha yoga, ça veut dire le yoga de l'effort. C'est celui qui est le plus pratiqué en France ?
Oui, c'est le plus pratiqué en France, et notamment parce qu'en fait, le Hatha Yoga, alors c'est un petit peu... Lionel pourra peut-être aussi...
Je suis d'accord avec vous. C'est ce que vous allez dire, je suis d'accord avec vous.
D'accord. C'est que, en fait, le Hatha Yoga, c'est effectivement un type de yoga, mais c'est aussi celui qui englobe tous les yogas modernes. Donc quand on parle d'Ashtanga, de Vinyasa, voilà.
Ou
de...
Merci.
Voilà,
c'est de préciser cela, parce que effectivement, ça m'énerve beaucoup quand on distingue le Hatha yoga et les autres yogas que l'on a pas, qu'on va dire Ashtanga, Bikram, Vinyasa. Enfin, c'est du Hatha yoga, voilà. C'est-à-dire impliquant le corps.
Voilà, tous sont dérivés du Hatha yoga. Tous sont dérivés du Hatha yoga.
Et comment on s'y retrouve dans la jungle des appellations?
Alors ça, c'est une histoire, et là, justement, c'est pour ça qu'on attendait votre livre, parce que c'est l'évolution du yoga au XXe siècle. Il faut comprendre l'évolution du yoga au XXe siècle, qui est partie de grands professeurs qui ont eu eux-mêmes des élèves, et qui ont eu eux-mêmes des élèves, et ce qui fait qu'il y a une profusion de pédagogies différentes, avec des mises d'éclairage sur différents aspects. Mais en fait, on se retrouve toujours avec la définition première, une posture, une respiration, et une conscience.
Le regard de l'anthropologue Abdoun Daba sur le succès planétaire du yoga. Comment vous l'expliquez avec votre regard d'anthropologue?
Considérons le yoga comme un produit. Ce produit est passé par les États-Unis, entre autres, a été noyé dans la culture néolibérale, et puis il est revenu modernisé, et il apparaît aujourd'hui comme une solution, non plus comme une spiritualité, certainement pas comme un sport, mais comme la solution à des tensions. Et voilà comment il est devenu le signe de notre consommation de toutes les pratiques spirituelles. Qu'est-ce que ça veut dire, consommation? Ça veut dire, j'ai un problème, il y a quelqu'un ou une discipline, ou une méthode et une technique, typiquement occidental comme mode de pensée, qui va résoudre ce problème, alors que le yoga, si on veut le dire vite comme ça, est plutôt une philosophie qui considérerait que nous sommes tous des êtres spirituels qui sommes en train de faire sur Terre une expérience humaine. Il va falloir retrouver l'union, l'unité. Et nous, dans notre culture matérialiste, on se dit « j'ai mal au dos, alors je vais faire un stage de « j'ai mal au dos, j'ai mal aux pieds, je vais faire un stage de yoga ».
Si vous permettez, excusez-moi, je pense que justement ça a beaucoup évolué et que l'approche du yoga, c'est pas « j'ai mal au dos, je vais faire du yoga ». C'est « j'ai mal au dos, et je prends conscience qu'il y a quelque chose qui dépasse ma simple problématique du dos et je vais faire du yoga parce que je sens qu'il y a d'autres dimensions ». Une autre précision, pardonnez-moi, parce que j'ai bien connu Gérard Blitz. Gérard Blitz, c'est qui? C'est qui? Le fondateur du Club Med. Et en France, le yoga existait bien avant aux États-Unis. Et on a également des personnages très importants comme Sri Mahesh qui sont venus dans les années 50, qui ont participé aux Jeux Olympiques de Londres et qui ont importé le yoga. Donc il y avait une implantation très forte. Et pourquoi je parle de Gérard Blitz? Parce que, sachant qu'il était le créateur du Club Med, tous ceux qui allaient au Club Med faisaient du yoga parce qu'ils avaient mis le yoga dans les Club Med et revenaient en France. Et donc on a une antériorité, une histoire du yoga en France qui date, qui remonte aux années 50 et qui est très importante. Et déjà dans les années 68-70, il y avait de la pratique du yoga dans tous les villages en France.
On reviendra tout à l'heure sur cette histoire du yoga. Marie Coq, sur ce que vient de nous dire Abdou Gnaba.
Qu'est-ce que je pourrais rajouter Effectivement, il a été modernisé. Alors, on s'en sert comme un outil, c'est vrai. Mais effectivement, moi, je serais peut-être un petit peu moins catégorique, un peu plus optimiste. On peut dire ça comme ça. Effectivement, en fait, le yoga répond aux logiques libérales et aux logiques modernes. Mais ça ne veut pas dire qu'il a été dévoyé. Voilà, moi, c'est juste cette petite précision là que ça veut dire qu'il a été aussi, traversé par l'époque comme tout le reste. Mais voilà.
Oui, alors, techniquement, en tant qu'ethnologue, le yoga, vous le savez tous autour de cette table, c'est quand même 8 étapes. Dans notre société, on se concentre sur les asanas et les pranayama, donc la troisième et la quatrième, qui sont les postures, on devrait dire l'assise, et la respiration. On oublie un peu l'éthique personnelle et par rapport aux autres. Je ne parle pas de tout le monde, attention, je dénonce les marchands du temple. Et ensuite, le retrait des sens, puis la concentration sur un objet, la concentration sur rien d'autre, et enfin, atteindre le samadhi. C'est-à-dire la félicité, c'est quand même ça le yoga. À
l'origine. C'est exactement cela. Et je crois qu'aujourd'hui, quand on rentre dans une salle de yoga, les deux premières étapes sont indispensables, c'est-à-dire ne pas se faire mal. Primum non nocere. Deuxièmement, être sincère dans sa pratique, s'engager de tout son corps, ne pas vouloir faire de compétition avec les autres et accepter ce qui vient même si on n'y arrive pas.
Pas
et
de ça, yoga je crois, selfie alors.
Et ça, c'est du yoga. Et on parlait de la définition, c'est-à-dire qu'il faut que cette philosophie incarne le yoga, infuse le yoga.
Oui, c'est vrai qu'on privilégie plutôt les deux premiers piliers du yoga et pas les suivants, mais c'est aussi parce que c'est très difficile en fait dans la société occidentale telle qu'on est. Soit on arrive à faire du yoga intégrale, c'est-à-dire avec les 8 étapes, mais il faut aller se retirer dans les montagnes de l'Himalaya et ne faire que ça. Si on veut intégrer, c'est aussi en ça que je trouve qu'il faut être un peu moins sévère, quoi. C'est-à-dire que si on ne fait pas les 8 étapes aujourd'hui, on fait ce qu'on peut dans la société dans laquelle on évolue, quoi.
Et ce matin, nous accueillons le jeune Gabin, futur apprenti en BTS audiovisuel à Saint-Brieuc, dans le cadre du DUOD. C'est un programme qui favorise l'inclusion des personnes en situation de handicap dans le monde du travail. Bienvenue Gabin, tu vas nous suivre Bonjour. Tout au long de la journée. Tu vas suivre les étapes de la fabrication d'une émission de radio. Et tu as choisi la radio, c'est super. En tout cas, si tu as une question à poser à nos invités, n'hésite pas, tu me fais signe et tu peux leur poser toutes les questions que tu veux. Alexia Rivière, Alexia Lacour m'ont aidé à préparer cette émission avec Nicolas Bove et c'est réalisé par David Leprince. 01 45 24 7000. Véronique Sanson, besoin de personne.
Pardon, excusez-moi, il sent un peu le chien mouillé, mon tapis. Le vôtre, ça va ?
Grand bien vous fasse.
On a quand même l'air très con, non ? Vous pouvez respirer moins fort, j'ai l'impression d'être au salon de l'agriculture. Dalai Lama, j'ai une crampe.
Sur France Inter.
Faut vraiment être prêt à tout pour atteindre la plénitude.
10h25 et ce matin on s'intéresse au succès planétaire du yoga. Toutes vos questions au 01 45 24 7000. Gabin avec nous dans le cadre du DUOD. T'avais Bonjour. Une question à nos invités.
Oui, alors j'ai pas bien compris les 8 étapes du yoga.
Qui veut répondre ? Lionel Coudron peut-être ? De façon pédagogique et claire.
Eh bien justement, en fait, si on a distingué 8 étapes, en fait, c'est 8 parties. Et c'est plus pour des raisons pédagogiques, parce que la réalité, c'est que quand on est sur le tapis, ce qui est intéressant, c'est qu'on implique un tout. C'est-à-dire une façon de procéder, une façon d'être, une façon de respirer, une façon de s'étirer, également dans l'acceptation d'une présence à soi, d'une concentration et d'un état d'unité. Et les 8 étapes, c'est pas 8 étapes, c'est 8 parties. Et ça définit bien d'ailleurs ce que veut dire le mot anga, c'est une partie d'un tout. Alors, je ne sais pas si on a très bien compris, mais pour le comprendre, il faut l'expérimenter. Je crois que c'est ça le plus simple.
Thibaut de Saint-Maurice,
est-ce que j'ai répondu à la question ?
Oui.
Bon, très bien.
Un peu mieux, oui.
Depuis une dizaine d'années, la France s'est mise au yoga. Ils sont 2 millions à le pratiquer régulièrement.
Expirez, vous allez vers l'avant.
Les cours affichent complets, comme ici dans ce studio parisien.
Voilà, c'est bien.
Ce jour-là, ils sont une vingtaine à venir suivre l'enseignement de Gérard Arnaud. Un des précurseurs du yoga en France. Il a vu évoluer la discipline depuis les années 70.
Éloigne les omoplates.
On gagnait pas notre vie. On disait, ah oui, vous, vous travaillez pas pour l'argent. Voilà ce qu'on me disait. Donc au départ, j'étais tout seul, je faisais absolument tout. Et maintenant, il y a 30 personnes qui enseignent ici. Donc c'est déjà une énorme différence.
Aller vers le centre, aller chercher loin.
D'avoir une activité comme ça, ce qui fait travailler quand même tout le corps et l'esprit, c'est assez unique. Et je pense que l'engouement qui existe dans le yoga est complètement justifié.
Extrait du JT de TF1 en novembre 2017. Alors Marie Coque, dans votre livre « Yoga, une histoire monde », vous écrivez que le yoga, c'est l'histoire d'une grande contamination positive, d'une épidémie de la guérison. Et vous trouvez tout de même qu'on nous raconte beaucoup de belles histoires sur le yoga. Une histoire lisse, positive, linéaire, sans aspérité. Et on oublie que l'histoire récente du yoga a été une histoire également politique.
Oui, en fait, on oublie de raconter que c'est une que si finalement tout le monde se met à faire du yoga aujourd'hui, c'est pas juste par un miracle, par une espèce comme ça, effectivement, de ce que j'appelle une contamination positive, que un tel a dit à un tel et qu'on s'y est mis, etc., et que d'un coup tout le monde s'y est mis. Il y a une vraie conquête de l'Inde vers l'Occident, et en fait c'est qui explique non seulement l'engouement pour le yoga aujourd'hui, mais aussi le type de yoga qu'on pratique aujourd'hui. Parce qu'effectivement, comme disait Lionel, à la base, c'est vraiment une philosophie. Ensuite, ça devient une philosophie avec des exercices de méditation et de respiration. Mais le combo que nous, on connaît aujourd'hui avec posture, respiration, séquencée, etc., ça, c'est extrêmement récent. Et cette version du yoga, elle est née parce que justement, l'Inde veut démocratiser son yoga, notamment parce que en Inde, c'est en train de péricliter, et puis aussi parce qu'ils sont sous l'empire britannique et qu'ils veulent montrer à l'oppresseur que eux-mêmes, ils ont une philosophie, une pratique physique et une science qui est supérieure à la leur et qui est antérieure à leur venue.
La date clé, c'est 1924.
Voilà, c'est 1924 où en fait il y a Krishnamacharya qui est donc le père un peu de tous les yogas et de tous les maîtres modernes qu'on a connus par la suite, qui va ouvrir à Mysore son école de yoga. Et en fait ça va être aussi c'est peut-être une petite révolution, parce qu'il va ouvrir cette école donc non plus seulement aux disciples des gourous, où c'était des enseignements comme ça très réduits, on avait 2-3 disciples à tout casser, et là il va ouvrir ça dans un truc comme ça beaucoup plus démocratique. Il va aussi faire un yoga beaucoup plus séquencé et il va ouvrir aussi aux filles. Donc là, il y a vraiment une rupture à ce moment-là.
Et il va s'inspirer de la gymnastique suédoise.
Voilà. Alors en fait, il s'inspire. Il y a une influence de la gymnastique suédoise. En fait, c'est aussi ça, la belle histoire. On voudrait dire que le yoga, c'est une discipline indienne qui n'a pas bougé depuis 5000 ans. Bon, évidemment, il n'en est rien. Effectivement, et tout ce yoga moderne, il va être influencé donc par la culture physique britannique, par les bodybuilders, qu'on appelle les culturistes encore à l'époque, et par la gym suédoise. Et la gym suédoise, ça va les influencer notamment dans la façon de créer des séquences de yoga. Aujourd'hui, ça nous paraît complètement normal, quand on pratique le yoga, de faire des salutations, des postures debout, des postures assises, la relaxation. Donc une séquence qui promet de passer par, de faire tout le corps, toute la respiration, etc. Ça, c'est un apport aussi notamment ce truc séquencé en un temps donné, c'est un apport de la gym suédoise.
Et si je vous ai bien lu, on a donc fabriqué, entre guillemets, un classique.
Alors oui, alors ça c'est on a fabriqué un classique, c'est-à-dire que on a aujourd'hui dans le yoga moderne, quand on passe qu'on aille dans les studios branchés ou dans les ashrams un peu plus
roots,
sérieux et un peu plus roots, c'est un peu plus érudit éventuellement, on va toujours se référer au texte de Patanjali, donc les Yoga Sutras de Patanjali, qui est le texte classique.
À quelle période?
Alors, c'est pas clair non plus, parce que d'une part, on n'est pas sûr que Patanjali ait vraiment existé. On se demande s'il a vraiment existé ou si, en fait, on a collecté. C'est quelqu'un qui a le nom, enfin, un peu comme Shakespeare, quoi. Est-ce qu'il y avait une armée comme ça de gens qui ont écrit à sa place et qui ont été collectés sous le nom de Patanjali, ou si c'était vraiment une vraie personne?
Est-ce qu'on peut dire que c'est entre le 2e siècle avant notre ère et le 4e siècle après Jésus-Christ?
C'est exactement ce qu'on fait dire.
C'est une large période.
À peu près 2000 ans.
Une écriture collégiale. Exactement. Et l'écriture collégiale, mais on sait pas très bien. Et effectivement, aujourd'hui, on s'en sert comme de la base de l'enseignement dans les studios de yoga aujourd'hui, alors qu'en fait ça parle d'un yoga qui était effectivement, comme disait Lionel, un yoga qui était encore qu'une philosophie, et on s'en sert aujourd'hui pour expliquer en gros les postures.
Alors, ce qui est clair, c'est que les Yoga Sutras, d'il y a 2000 ans, ça ne parle pas du tout de posture.
Exactement.
Ça ne prononce le terme de posture qu'une fois.
Une seule fois.
Deux fois même. Mais en fait, c'est un digest, un petit livret pour les nuls sur la méditation. Et ça explique qu'on a tous la souffrance. C'est-à-dire que là, on est en plein dans la philosophie grecque du moins 4e, moins 5e siècle. On est dans la même perception et on se dit l'être humain souffre. Comment faire pour diminuer sa souffrance? Et on met en place une technique de méditation. Et cela, ça va s'enrichir au fil des siècles par les postures, les respirations. Et on a un deuxième ouvrage important qui nous rejoint vers le 17e, 18e siècle, qu'est la Hatha Yoga Pradipika. Et puis un troisième, la Yoga Dipika d'Iyengar, 20e siècle. Mais il y a une vraie évolution. Pardon, encore une chose. En 1924, il y a à côté de Krishnamacharya, Gune, qui va créer un ashram d'études pour le yoga. Parce que justement, il veut rendre les lettres de noblesse au yoga. Et pour ça, il se dit, la seule solution, c'est de montrer des preuves scientifiques.
Voilà,
et ça va
science,
être les exactement. Premières recherches médicales qui sont faites en 1924.
On va y revenir. Bonjour Aurélia, bienvenue, vous appelez de l'Hérault.
Oui, bonjour. Alors... j'appelais parce que je voulais... témoigner sur le yoga parce que donc moi je suis une adepte depuis septembre, j'ai vraiment repris le yoga parce que justement j'ai cherché quelque chose qui va au-delà du sport et moi je voulais vraiment parler de deux choses, c'est que le yoga permet vraiment de calmer le mental. Donc moi je suis quelqu'un qui j'arrive pas du tout à être sensible à la méditation, mais j'ai remarqué que par ce travail sur l'alignement physique, sur la souplesse du corps, sur l'enchaînement des postures, justement, ça permet de gagner ce mental et de, ensuite dans la vie, de prendre des décisions qui sont beaucoup plus fluides, qui sont beaucoup plus souples. Donc moi, en fait, quand j'arrive au yoga, je peux être super nerveuse et en sortir complètement zen. Et aussi, je voulais témoigner sur le fait que c'est vraiment une philosophie de la lenteur. Et je trouve que c'est important dans une société comme la nôtre, avec des métiers qui nous demandent d'être toujours sur plein de choses en même temps, une vie assez remplie. C'est vraiment une pratique qui nous permet de retrouver l'essentiel. Et je pense que c'est vraiment un sport, enfin au-delà, qui devrait être complémentaire à tous les sports et à plein d'autres choses dans la vie d'ailleurs.
Marie Coque, sur le témoignage d'Aurélia.
Oui, je trouve que c'est très intéressant. Effectivement, comme Aurélia le dit, on va aussi au yoga pour calmer ce mental. Et ce qui est intéressant aussi quand même de savoir, c'est que, parce que je sais qu'il y a aussi beaucoup d'élèves qui, et moi j'en ai fait partie aussi, qui peuvent se mettre la pression parce qu'ils n'arrivent pas à faire le vide, etc. et qu'ils ont l'impression d'être des mauvais yogis, des mauvais méditants, etc. Mais en réalité, le yoga aussi, notamment le yoga moderne, ça a été pensé pour justement non seulement la pratique physique, donc il y a l'effort, mais il y a aussi le fait d'être bombardé de contraintes, enfin d'alignement. Si on voit par exemple un cours qui est donné par Iyengar, qui est l'un des grands maîtres modernes, etc., c'est ne serait-ce que pour étirer les bras, il faut penser aux petits doigts, aux poignets, alignés, naninana. Bon. Et en fait, c'est que on est tellement bombardé, on est tellement en train de régler des choses tellement subtiles dans le corps que c'est aussi comme ça qu'on arrive à calmer le mental.
Merci beaucoup Aurélia de nous avoir rappelé le regard de notre anthropologue Abnouk Daba.
Alors le yoga, donc très bien hein, s'il fait du bien. Maintenant, si je reviens sur ce qu'il est à l'origine et sur sa dimension de voie initiatique, rappelons qu'il s'inscrit dans notre société de consommation au niveau des pratiques de développement personnel. Or, toute voie initiatique correspond en fait à une voie de dépouillement personnel. Il s'agit de se détacher de soi-même pour entrer à l'intérieur de soi et retrouver un peu l'unité, le grand tout. Mais c'est exactement ce que vous avez dit tout à l'heure. Il est né au moment où la philosophie grecque, qui avait elle-même hérité ce savoir des Égyptiens puis des Sumériens, nous donnait l'allégorie de la caverne de Platon. Qu'est-ce que nous dit Platon? Il nous dit que nous sommes enfermés dans un souterrain avec des chaînes. Et on tourne le dos à la sortie. Or, on ne peut donc voir que les ombres. C'est exactement le monde dans lequel on vit. C'est pour ça qu'on manque d'oxygène. Et qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? On a deux solutions. Soit on améliore les conditions de notre incarcération, soit on change la moquette, etc. On reste dans la caverne. Et surtout, on ne veut pas sortir et on va faire un yoga dévoyé, ou alors on veut effectivement suivre la voie initiatique du yoga, sortir de la caverne, passer au-delà des apparences et aller vers le bien et l'unité.
Notre prof de philo, Thibaut de Saint-Maurice.
Oui, c'est vrai qu'il y a des grands motifs qu'on peut retrouver. En fait, à cette époque, l'Orient et l'Occident sont, enfin le Moyen-Orient, en tout cas l'Inde, etc., sont beaucoup plus proches que ce qu'on pourrait croire, puisqu'il y a des routes commerciales très très fortes, et puis il y a aussi une proximité d'inspiration sur la langue et les concepts, hein, entre, on appelle bien la langue indo-européenne. Donc les mots et les concepts eux-mêmes sont communs. J'apporterai juste une toute petite nuance justement sur la partie un peu plus occidentale, on va dire sur le côté allégorie de la caverne. C'est aussi un chemin de connaissances théoriques, un cheminement théorique de connaissances et donc de rapport à la vérité aussi, un questionnement sur un rapport à la vérité. Il y a une dimension développement personnel, mais il y a une vraie dimension théorique et théorique.
Marie Coq, revenons à cette histoire du yoga. En 1924, le yoga commence donc sa conquête de l'Occident par la Californie. Quel rôle a joué la contre-culture des 60s, le festival de Woodstock, Hollywood, les Beatles dans la diffusion mondiale du yoga?
Ça a été effectivement, très très important. Même si la Californie, ils y sont allés avant. On connaît un peu plus l'histoire de la contre-culture avec le yoga, mais en fait, il y a eu déjà un précédent. Donc, même avant Krishnamacharya, dans les années 20, où il y a un des premiers gourous Yogananda qui va là-bas. Mais effectivement, la contre-culture, ça va être très important. Plutôt que de résumer, je voudrais juste peut-être vous raconter une petite histoire de cette contre-culture que j'ai vraiment trouvé passionnante et qui explique notamment aussi toute l'histoire de comment en fait ce yoga devient un outil de la santé. Mais c'est en fait on connaît Timothy Leary qui est le pape du LSD et qui a joué un rôle extrêmement important dans cette diffusion du yoga, parce qu'en fait quand il est encore à la faculté de psychologie avec donc son ami Richard Alpert, ils font des expériences avec le LSD. Et cette expérience avec le LSD, c'est pas pour savoir si c'est la meilleure drogue pour s'amuser dans les fêtes, mais c'est pour savoir si ça permet d'avoir des expériences mystiques et de rencontrer Dieu. Mais dans tout leur entourage, donc il y a Aldous Huxley, il y a Christopher Isherwood, enfin il y a
tous ces
écrivains comme ça qui gravitent et qui donc certains vont prendre du LSD, d'autres vont faire du yoga avec le même questionnement. Entre le yoga et le LSD, qu'est-ce qui est le plus efficace pour rentrer en communication avec Dieu?
Et alors?
Alors la réponse qui a été donnée. Timothy Leary a continué à prêcher le LSD, évidemment. Mais Richard Alpert, lui, est parti en Inde et il en est revenu. Il est devenu Ramdas et ça a été un des premiers gourous américains qui a écrit un manuel pour les yogis, etc. Mais lui, il dit, parce qu'il a fait tester le LSD à son gourou en Inde, il dit, avec le LSD, on peut rencontrer Dieu, mais ça ne dure que 4 secondes, alors qu'avec le yoga, ça peut durer toute la vie.
Pouvez-vous nous parler d'un personnage clé dans l'histoire du yoga, Bikram Choudhury, qui est né dans les bas-fonds de Calcutta, en Inde. Il arrive aux États-Unis en 1973. Il va jouer un rôle fondamental dans la diffusion du yoga, et il a pu notamment compter sur l'aide de l'actrice Shirley MacLaine, qui lui ouvre son carnet d'adresses de star. Des stars qui vont assurer la publicité du yoga.
Ouais. Alors vraiment, effectivement, si on doit parler d'un yoga dévoyé, donc moi qui est un terme que j'aime pas trop, mais alors pour Bikram, éventuellement, on peut faire une dérogation.
Il a joué un rôle très important.
Il a joué un rôle très important parce que lui, il va en fait, c'est celui qui va faire du yoga une franchise, une entreprise avec des franchises. En fait, les précédents, ils arrivent avec effectivement leur façon d'enseigner, etc. Mais ils y pensent pas comme forcément un business. Lui, il va arriver avec une approche extrêmement business. Effectivement, donc il arrive à Hollywood parce qu'il sait qu'il va cibler les stars. Shirley MacLaine va le prendre sous son aile et lui ouvrir effectivement son carnet d'adresses. Ce qui fait que son centre à Hollywood devient l'endroit où il faut être vu. Il a énormément de stars. Il a Kareem Abdul-Jabbar, par exemple, dans ses stars. Le basketteur. Donc il trouve un très mauvais élève alors qu'à l'époque, c'est vraiment la star du basket. Et donc, avec ce succès-là, il va créer des centres partout aux États-Unis qui vont être copyrightés. Et donc voilà, donc là, c'est vraiment une bascule économique et marchande du yoga.
Purement commercial, effectivement.
Exactement.
Et une éthique qui n'est pas du tout celle du
qui
yoga.
Qui est tout à fait personnelle, ouais.
Il faut savoir qu'il y a eu des plaintes déposées contre
Bikram.
Et
effectivement, il a des affaires en justice, donc ça montre un petit peu
le personnage. Oui, il a été jugé pour agression sexuelle. Ouais, il est censé verser 7 millions de dollars. Donc il est parti des États-Unis, il ne peut plus y remettre les pieds, sinon il se fait condamner.
Mais c'est important de comprendre cette diffusion à partir d'Hollywood, parce que ce sont des modèles et qu'effectivement, ça va, il va y avoir une sorte de ruissellement auprès de des fans, des stars, etc., qui vont peut-être vouloir se mettre au yoga parce que leur vedette préférée pratique, etc. Donc il y a une sorte de ruissellement.
Oui, oui, bien sûr. Et puis après aussi, alors effectivement, on peut voir ça comme un dévoiement, encore une fois, mais en réalité aussi, à cette époque-là, le yoga, pour beaucoup de gens, c'est vu comme un truc un peu bizarre. On confond ça un peu avec la secte Hare Krishna. Bon, donc il y a un truc un peu d'illuminé. Donc finalement, quand il y a ces stars qui viennent en disant ben moi, le yoga, c'est super, ça change la vie, ça a aussi permis de changer un peu la donne.
Thibaut de Saint-Maurice, que vous inspire notre sujet du jour ?
Ben Ali, comme je le disais, j'avoue bien volontiers que j'ai jamais pratiqué de yoga et je connaissais très mal, mais du coup j'ai appris beaucoup de choses ce matin et puis j'avais un peu regardé aussi avant de venir et je crois avoir compris, ce qu'on a dit ce matin me le confirme, que l'un des horizons du yoga, c'est de proposer à celui qui le pratique de retrouver donc un équilibre, une harmonie avec lui-même et avec le monde, bref, de se reconnecter à soi-même, pour prendre une expression qu'on trouve un peu partout. Et moi, naïvement, je m'étonne. S'il faut se reconnecter, c'est donc qu'on est déconnecté. Et s'il faut retrouver une harmonie et un équilibre, c'est que nous sommes un peu tous déséquilibrés. Alors voilà la question qui m'intéresse. De quoi, au juste, le yoga entreprend-il de nous libérer en nous proposant de reprendre conscience de nous-mêmes ?
Bah, peut-être justement d'une certaine inconscience de nous-mêmes.
Oui, c'est vrai, mais le yoga, on l'a compris, c'est pas de la psychanalyse. Il s'agit pas de partir à la conquête de notre inconscient psychique, de ses désirs inavoués, de ses complexes formés dans l'enfance. Pour mieux comprendre, peut-être faut-il partir de la pratique elle-même. Il existe différentes sortes de yoga, donc avec des noms imprononçables, mais toutes les pratiques partagent un souci de la maîtrise de la respiration et puis aussi une exigence d'assouplissement du corps. Alors ça, c'est intéressant. Respirer et assouplir. Ces deux pratiques, ce sont de bons indices parce que la plupart du temps, nous respirons sans nous en rendre compte. La respiration rythme notre vie, mais la plupart du temps, sans notre consentement. Et puis pour la souplesse, c'est un peu pareil, c'est une sorte d'horizon perdu. Au départ, souvenez-vous Ali, je veux dire, quand nous étions tous bébés et même encore enfants, nous étions souples. Notre corps ne s'était pas encore raidi sous l'effet de postures apprises et normées. Mais nous avons oublié la souplesse de notre corps, comme nous oublions que nous respirons. Et au fond, ça indique que nous avons tout simplement oublié notre corps. Attention, on n'oublie pas le corps, parce que là, au contraire, il se rappelle à nous toute la journée, quand on est fatigué, quand on est malade, déformé, jugé, moqué, ou au contraire, quand notre corps est admiré et désiré. Non, en fait, on a oublié que ce corps est le nôtre. Et comme le fait remarquer le philosophe Merleau-Ponty, nous avons oublié que ce corps qui est le nôtre, c'est nous. Et même, c'est nous de façon première. Merleau-Ponty, il dit primordial. Ainsi, avant même d'être un « je pense », un « je me souviens », un « j'imagine », un « je désire », un « j'agis », je suis mon corps, ce corps qui m'attache au monde et aux autres. Et si donc le yoga peut nous reconnecter à nous-mêmes, c'est peut-être parce qu'il se propose de nous faire redécouvrir ce corps que nous sommes et sa vie propre qui est aussi la nôtre. C'est vrai qu'il y a une tendance à fonctionnaliser le corps et à faire de la personnalité juste une question de caractère. Et puis il y a aussi les progrès de la médecine et de la science qui transforment notre corps en un ensemble toujours de fonctions et de réactions physico-chimiques toujours plus complexes. Voilà, l'horizon du yoga, c'est celui d'une vie meilleure, d'une vie réconciliée, et non pas seulement d'une performance comme le sport ou la gymnastique. Et au fond, c'est peut-être ça la clé de son succès aujourd'hui. C'est une sagesse qui est accessible à nous, humain, parce que c'est une sagesse qui n'oublie pas le corps que nous sommes.
Et le docteur Lionel Coudron acquiesce.
Absolument, parce que je crois que le corps est l'espace de notre vie, c'est là qu'on l'expérimente, c'est là qu'on vit, et c'est bien à travers nos ressentis, nos sensations, que l'on va pouvoir orienter nos actions et notre attitude.
La petite philosophie de la vie quotidienne, à voir en vidéo sur la page Facebook de Grand Bien Vous Fasse. Allez, nous attendons toutes vos questions sur le succès du yoga au 01 45 24 7000. I feel your love. I feel time is up. When I was a child, I never knew enough what to do to me. The wave of love is a transient hut. The water's the shell and I saw a hand arch out of the barrel. Look at all the peaches. How do you celebrate? Aldous Harding, interprété The Barrel. Alors tiens, Gabin qui nous suit tout au long de la journée dans le cadre du DOD, ça te plaît ça? Ça va?
C'est l'émission.
Non, non, pas l'émission, la chanson, ça va?
Ah,
c'est
oui, mais...
très bien.
D'ailleurs, j'avais une question par rapport au yoga et la musique. Je voulais savoir si ça avait eu un impact, par exemple, sur le mouvement hippie. Quand on voit, par exemple, l'album des Beatles, Sgt Pepper.
Très bonne question.
Qui est un classique, en plus de la musique, je voulais savoir si ça avait justement bien influencé, parce que je crois qu'ils ont été enregistrés en Inde.
Exactement, ouais.
Certaines chansons.
Ouais, ouais, ils ont écrit une grande partie ils ont écrit beaucoup de chansons à Rishikesh, où ils avaient été invités par un gourou là-bas. Donc, ils ont écrit les chansons.
Shri Marishi Mahesh Yogi.
Exactement. Et ils ont aussi arrêté le LSD là-bas.
Ce qui est une bonne chose.
Ce qui était voilà, donc ça a été une bonne semaine quoi pour eux. Ça a été productif. Et ensuite ils ont effectivement il y a eu à Woodstock, il y a eu un moment assez important où il y a eu un gourou en fait qui a fait entonner un home à 400 000 personnes. Donc voilà, donc il y a eu comme ça effectivement il y a eu beaucoup de liens entre Woodstock, la contre-culture, les Beatles effectivement autour du yoga.
Donc on s'intéresse ce matin à 10h49 au succès planétaire du yoga et je vous propose d'écouter le reportage d'Antoine Lee qui a rencontré une personne qui a inventé une technique qui s'appelle le yoga. Attendez, je n'ai plus le nom exact de cette technique, le fly yoga, voilà, c'est un yoga qu'on pratique dans un hamac, Antoine Lee a suivi un cours.
On va saisir son tissu, puisque nous allons pouvoir introduire la jambe droite à l'intérieur du hamac. Inspirez, expirez, lancez la jambe droite à l'intérieur du hamac. Et là Antoine, pousse-toi bien sur le côté, et hop, on s'envole.
Florie Ravinet, comment vous avez eu l'idée de créer le fly yoga, le yoga aérien?
Je pratiquais le cirque et aussi étant professeur de yoga, j'ai choisi de mélanger les deux disciplines. Alors le fait d'être en suspension, les articulations vont se relâcher, permettant un soulagement des contraintes. Il y a moins de contraintes articulaires. D'un point de vue psychique, on a une réelle connexion à nos émotions, soit la confiance en soi, le lâcher prise. C'est une méthode qui a été validée par des kinés, des psychologues, et je travaille aussi avec des psychomotriciens, puisque j'ai aussi les cours enfants. Ici, on va ouvrir les brins, ces deux brins comme en cirque, et on va flexer le pied qui se trouve dans le tissu. Ça va, Anaï, tu sens l'étirement ? Parfait. L'étirement est sous la fesse droite, dans les fessiers profonds.
Quand on regarde les élèves, des fois, on a l'impression que les élèves sont dans des cocons, comme une forme de chrysalide.
L'outil, ce qui est intéressant, c'est qu'il peut être enveloppant, soutenant, comme un utérus. C'est ça, en fait, qui crée des états régressifs. Voilà. Et donc, ça permet au corps et au mental de se régénérer. Je vous invite à fermer les yeux pour vous connecter au bercement du hamac. À chaque respiration, ton corps se relâche, se détend, et la paix est à l'intérieur de toi.
Léa, vous aviez fait du yoga traditionnel avant ?
Oui, ça fait plusieurs années que je fais du yoga, mais surtout du hatha yoga.
Et là, le fly yoga, quelle est sa plus-value par rapport aux autres yogas ?
Ce sont des sensations qui sont totalement différentes par rapport aux autres yogas, forcément parce que on est, je dirais, dans les airs, suspendu dans ce tissu qui est entre le hamac et le cocon aussi. On est vraiment dans le lâcher prise souvent, alors que beaucoup dans le yoga, on a tendance à être dans le contrôle du corps aussi, hein. Donc effectivement, les sensations et l'approche, la démarche sont différentes.
On inspire, on étire, poussez les parois du tissu comme si vous étiez dans un petit ver, là, bientôt papillon, dans une chrysalide.
Laure, vous êtes enceinte, c'est ça, si j'ai bien compris ?
Oui, c'est ça, d'environ 3 mois.
Vous en avez parlé avec votre médecin ?
Bien sûr, ils me disent tant que vous êtes à l'aise, tant qu'en plus vous avez déjà pratiqué, il n'y a pas de problème, c'est vous qui le sentez. D'une part, il y a l'aspect ludique où on retrouve un peu notre enfance, tout simplement. Et puis il y a l'aspect vraiment donc des étirements qui sont beaucoup plus intenses, beaucoup plus poussés, qui permettent la détente à la fois du corps et de l'esprit.
Namasté mes sœurs.
Reportage signé Anthony, qu'est-ce que vous pensez de ce fly yoga Marie Coq? Vous glisseriez-vous dans ce grand morceau de tissu accroché au plafond?
Oui, pourquoi pas. Je sais pas, le fly yoga, j'ai pas vraiment d'avis. En tout cas, c'est effectivement, ça fait partie de toutes ces déclinaisons qu'on peut voir aujourd'hui. Il y a toujours des du fly yoga, power yoga, beer yoga, cat yoga. Enfin bon, donc qui font en général les bonheurs des pages Yahoo insolites. Bon. Effectivement, on peut voir ça comme un truc très anecdotique et qui n'a pas. Bon, je pense pas que ça ait beaucoup d'intérêt en réalité, mais encore une fois, là, je pense qu'il faut pas être trop sévère, hein, parce que je trouve que ce que ça raconte surtout, c'est que ça raconte l'énorme concurrence aujourd'hui qu'il y a dans le milieu du yoga. Il y a de plus en plus d'adeptes, de plus en plus de profs, de plus en plus de salles. Et donc, alors qu'on devient prof de yoga pour être dans une vie plus harmonieuse, plus alignée, etc., il se heurte aussi aujourd'hui à vraiment la concurrence. Donc, quand il y a 5000 personnes qui font du vinyasa, eh ben on va proposer du fly yoga ou du cat yoga pour se démarcher. Donc je pense que si ça raconte aussi une logique une logique commerciale, mais
En couverture de votre livre, on voit une multitude de yogis tous habillés en blanc sur un tapis jaune. Mmh. 7000 participants, ça se passait à Montréal le 18 août 2018. Qu'est-ce que vous pensez de ces vastes rassemblements sponsorisés par des marques ?
Bah oui, voilà, justement, c'est que c'est souvent sponsorisé par des marques. Là, cette couverture, effectivement, que j'aime beaucoup. En plus, ce qu'on voit pas très bien sur la couverture, c'est que donc tout le monde est en train de faire la posture du triangle et que personne ne l'a fait à peu près correctement. Donc il y a énormément de personnes. Bon, ces grands rassemblements, c'est fait aussi pour marquer les esprits.
C'est un peu flippant.
Ouais, c'est un peu flippant. Et puis encore une fois, le yoga, ça passe aussi par une relation avec un professeur qui vient vous aligner, qui vient vérifier que vous vous blessez pas. Bon, bah là, à 7000, je vois pas très bien comment ça peut se produire.
Docteur Lionel Coudron.
Oui, mais moi, je serais comme vous, je prendrais un peu de recul et je me dis que c'est un signe. Moi, je le vois évidemment comme un signe d'une société avec une concurrence commerciale, mais aussi comme une créativité pour montrer aussi que le yoga n'est pas fixe, n'est pas stable, c'est pas uniquement une méthodologie, il y a plein de méthodes. Alors, certaines font plus sourire que d'autres, d'autres sont plus sérieuses que d'autres. Je pense que le temps verra, reconnaîtra les siens et puis on verra dans 10, 15, 20 ans comment les choses évolueront. Effectivement, il y aura beaucoup qui seront mettons de côté parce que ce sera pas extraordinaire.
Abdoungama.
Voilà, je veux redonner ces lettres de noblesse au yoga en tant que voie initiatique. Tout le reste, on a parlé de concurrence, on a parlé de business. C'est donc de la matière, c'est du commerce, c'est du libéralisme. Et c'est vraiment l'opposé d'une démarche de dépouillement personnel. Donc passer de la matière à la lumière, c'est bien ce que nous enseignent les voies initiatiques, dont le yoga.
Vous aviez une question hors antenne, Thibaut de Saint-Maurice.
Oui, parce que bon, j'ai appris plein de choses ce matin. Imaginons que je veuille commencer à me confronter à la pratique du yoga. Comment je choisis mon cours? C'est quoi les points de vigilance? Combien ça coûte un cours de yoga? Il faut en faire combien de fois par semaine? Enfin.
Alors, un cours de yoga, en tout cas à Paris, ça coûte à peu près entre 15 et 20 euros. Donc c'est quand même
le cours,
donc c'est quand même un investissement. Après il y a des structures où vous pouvez trouver moins cher, mais disons que voilà, globalement c'est ces prix-là. Il y a effectivement donc toutes les types de yoga. Les points de vigilance, c'est d'avoir un prof qui soit gentil avec vous, enfin qui soit. Ça paraît bête, mais il y a énormément.
La bienveillance.
Voilà, de la bienveillance. Il y a énormément de d'endroits où on vous parle pas très bien. C'est d'être gentil, de pas vous pousser dans des positions que vous ne savez pas faire, hein, de pas être dans un truc de démonstration et de concurrence. Et je trouve de vous aligner plutôt que de vous pousser à faire des choses pas possibles. Et aussi effectivement des cours où la respiration est très importante parce qu'on peut faire des cours de yoga où la respiration n'existe quasiment pas et où il y a de la relaxation aussi. C'est un contresens.
Comment devient-on professeur de yoga? Comment se forme-t-on? Il existe un diplôme d'État ou pas?
Alors, il n'y a pas de diplôme d'État. Il y a des formations qu'on compte en général en nombre d'heures. Donc, il y a des 200 heures, des 300 heures, des 500 heures. Il faut un 200 heures pour être prof de yoga. Donc, encore une fois, il y a quelques fédérations qui ne sont pas des fédérations nationales. Et puis, il y a un organisme international qui s'appelle Yoga Alliance qui vient labelliser les formations. Moi je trouve que le Yoga Alliance ça apporte pas grand chose en réalité, mais
oui, alors d'autant plus qu'en France et en Europe on a quand même des structures qui existent depuis 30-40 ans, et on a même l'Union Européenne de Yoga avec un programme minimum européen de yoga pour devenir professeur sur 4 années, donc c'est pas juste même 200 heures, et on est vraiment extrêmement sérieux sur ce plan là il faut renvoyer vers les 2-3 fédérations principales en France qui sont la Fédération Nationale des Enseignants de Yoga, qui réunit un grand nombre d'enseignants, de professeurs de yoga, avec des programmes assez quand même costauds et qui amènent à une connaissance vraie du yoga sur ces différentes dimensions.
Merci beaucoup Marie Coq. Je recommande vraiment Yoga, une histoire monde, publié à La Découverte. Merci docteur Lionel Coudron. Merci Abdoungama. Lionel Coudron, votre dernier livre, c'est Le vrai nom du bonheur et la sérénité. C'est publié chez Kero. Merci Gabin. De toute façon, tu restes avec nous tout au long de la journée. Sachez qu'à l'occasion de la journée internationale du vivre ensemble en paix, les dîners en couleur sont organisés ce soir partout en France pour créer du lien et célébrer la fraternité. L'idée, c'est d'apporter vos petits plats et vos couverts. À Paris, ce dîner de la fraternité est organisé Place de la République à partir de 18h30. À Carcassonne, c'est à la Maison des Associations dès 19h. Ou encore à Toulouse, à la salle Ernest Renan à partir de 19h. Toutes les informations sur le site fraternité-générale.fr. Demain, on se demande ce qu'est l'intelligence avec Olivier Houdet et Sébastien Boller. Toutes vos questions sur les différentes formes d'intelligence au 01 45 24 7000.